VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le Rwanda poursuit sa politique de détention arbitraire d'enfants des rues, indigents et vendeurs à la sauvette dans des centres de transit répartis dans le pays et où les mauvais traitements sont monnaie courante, a dénoncé aujourd'hui Human Rights Watch. L'ONG américaine souligne dans son rapport que l'arrestation de personnes pauvres s'inscrit dans le cadre d'une politique gouvernementale officieuse visant à dissimuler la présence de personnes indésirables et étranges avec les efforts importants du gouvernement rwandais pour réduire la pauvreté. Le Parlement angolais a adopté hier une loi d'amnistie pour les personnes condamnées à des peines maximales de 12 ans de prison pour les délits non violents, un texte qui devrait s'appliquer aux 17 opposants assignés à résidence. Le point, Nani Talani.
La loi proposée par le gouvernement accorde le pardon pour tous les crimes passibles d'emprisonnement jusqu'à 12 ans, a déclaré le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Mangueiras. Cependant, sont exclus de cette amnistie les crimes violents, les délits sexuels, le trafic de stupéfiants, la traite des personnes et des organes humains. Quelques 8 000 personnes devraient bénéficier de cette loi. Selon Zenaida Machado de Human Rights Watch, les 17 opposants condamnés en mars à des peines de prison pour tentative de rébellion qui ont été libérés en juin et assignés à résidence devrait en principe en bénéficier. La militante des droits de l'homme veut que le gouvernement abandonne les charges contre eux ou qu'un tribunal les acquitte, car ils n'ont commis aucun crime.
Le parquet sud-africain a annoncé aujourd'hui son intention de faire appel de la condamnation à 6 ans de prison de l'ancien sprinteur paralympique Oscar Pistorius pour le meurtre de sa petite amie, estimant que la peine était scandaleusement trop clémente. Dans un communiqué, le parquet a expliqué avoir étudié avec attention le jugement et décidé donc de faire appel. Cette condamnation est clémente, a-t-il justifié. La peine est disproportionnée par rapport au crime commis, a-t-il ajouté. Le meurtre étant passible d'au moins 15 ans de prison en Afrique du Sud. En République démocratique du Congo, les autorités nationales et les Nations Unies ont lancé hier à Kinshasa une campagne massive de vaccination contre l'épidémie de fièvre jaune. Tatiana Mosso.
L'opération a été lancée à Kizinko, commune de Kinshasa, où quelques 80 cas suspects ont été enregistrés et où 4 personnes sont mortes de la maladie. Vital Kabouikou, ministre de la Santé de la province de Kinshasa, a rappelé au début de la cérémonie de vaccination symbolique de près de 400 personnes que la fièvre jaune n'a pas de traitement spécifique, seule la vaccination permet de se protéger contre elle. Selon l'OMS, la campagne vise à vacciner plus de 4 millions de personnes en Angola et quelques 11 millions en RDC, pour un coût estimé à 34 millions de dollars. L'épidémie s'est déclarée en décembre 2015 en Angola, qui partage une longue frontière avec la RDC. En Angola, 355 personnes sont mortes et en RDC, il y a eu au moins 85 décès. La fièvre jaune est une maladie hémorragique vitale transmise par le même moustique vecteur de Zika ou de la dengue.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, l'état d'urgence qui avait expiré la semaine dernière est réinstauré à compter de ce jeudi, et cela en raison de l'attaque lors de laquelle 17 soldats ont été tués à Nampala, dans le centre du pays. Nampala est une ville de la région de Ségou, à plus de 510 km de Bamako et proche de la Mauritanie. D'après Ousmane Cornio, expert malien en gestion de conflits, l'attaque de Nampala est révélatrice de failles profondes dans le système sécuritaire de Bamako.
Tout le monde regrette que cette attaque ait lieu parce que tout le monde connaît la vulnérabilité et la fragilité de ce point. Il y a une première attaque et une deuxième attaque, et dans cette zone, pas plus tard qu'au mois de mars-avril, il y a eu 5 casques bleus qui ont été tués non loin de cette zone. C'est aussi dans cette zone qu'il y a eu le conflit entre les Peuls et les Bambara, où il y a eu une trentaine de morts. C'est suffisamment révélateur pour qu'on puisse prendre au sérieux la problématique de la sécurité dans cette zone et mettre les moyens qu'il faut. C'est vraiment une déception, aussi bien au niveau de l'État que des forces de sécurité et de la population.
Ousmane Cornio, expert en gestion de conflits à Bamako. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé hier au cours de sa séance hebdomadaire de conseil de ministres de suspendre les activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. internationale. Cette suspension intervient à la suite de violences qui ont émaillé le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lundi dernier. John Lydon s'est entretenu avec Daniel Nessemon. Il est le président national de la jeunesse étudiantine de Côte d'Ivoire.
La suspension des syndicats intervient après les différents événements survenus sur le campus de l'université de Cocody, suite à une vague de revendications qui a entraîné les casses de plusieurs véhicules, des destructions de biens publics. Et aussi, nous avons des actes de vandalisme, puisqu'il y a du matériel qui a été notamment dérobé pendant cette vague de revendications.
Les tensions entre la police, le gouvernement et les étudiants durent quand même depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a une porte de sortie des crises, à votre avis?
Oui, il y a une porte de sortie des crises. Je pense que celle qui serait la mieux utilisée et la plus idoine est la porte de négociation et de dialogue. Un ensemble de structures d'organisation étudiantine avait déjà entrepris des démarches pacifiques en vue de trouver des solutions. Et là qu'est intervenue cette vague de violence orchestrée par un certain nombre de syndicats.
Maintenant que les syndicats d'étudiants sont suspendus, qui est-ce qui va discuter avec les autorités?
Nous avons déjà des organisations bien structurées qui sont à même de pouvoir poser les problèmes réels sur les tables de négociation avec un certain nombre de procédés plus ou moins recommandés qui peuvent amener un certain nombre d'accalmie, surtout de l'apaisement.
Daniel Nessemon, le président national de la jeunesse étudiantine de Côte d'Ivoire. Nigeria, MSF appelle à une mobilisation humanitaire massive dans l'état de Borno, touché par les violences des salafistes armés. La zone est coupée du monde depuis presque 2 ans. Des milliers de femmes et d'enfants souffrent de malnutrition sévère et aiguë et le taux de mortalité est extrêmement élevé, a déclaré la directrice des opérations Isabelle Defourny.
Dans les villes de Bama, par exemple, il y a environ 10 à 15 000 personnes qui vivent dans le compound d'un hôpital, donc dans un périmètre de 400 mètres sur 400 mètres, donc dans des espaces très restreints. Peu de nourriture arrive dans ces sites, l'accès aux soins est inexistant et les habitations sont aussi extrêmement précaires. La ville a été complètement détruite et donc les gens se sont fabriqués des petites cabanes avec des tôles. Il n'y a pas de latrine non plus par exemple et un accès à l'eau qui est insuffisant. Alors aujourd'hui ce qu'il faut de toute urgence c'est mobiliser l'aide internationale, surtout pour qu'il y ait des distributions de nourriture qui se mettent en place rapidement. Il y en a déjà des acteurs comme le CICR, le Croissant Rouge Nigérian ou un organisme d'urgence étatique qui ont commencé des distributions de nourriture, mais c'est totalement insuffisant.
Isabelle Defourny, directrice des opérations à MSF. Donald Trump, fraîchement investi candidat à la Maison-Blanche, a subi hier un revers politique et un véritable affront lorsque son ancien rival Ted Cruz a refusé de lui apporter son soutien. Quant au discret gouverneur de l'Indiana, Mike Pence, il a officiellement accepté son poste de colistier et donc de possible futur vice-président. Aujourd'hui, jeudi, c'est la dernière journée de cette convention républicaine. Elle sera clôturée par un discours final de Donald Trump, formellement investi comme candidat à la Maison-Blanche. On retrouve à Cleveland l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Pineau.
Oui, le candidat républicain qui va s'exprimer la nuit prochaine ici depuis la Quicken Loans Arena de Cleveland. On attend beaucoup de ce discours. Avant de l'entendre, il sera introduit par sa fille Ivanka. On sait qu'il est très proche d'elle et qu'elle est très présente, notamment au sein de sa cellule de communication. Alors évidemment, dans ce discours, il y aura certainement des attaques contre Hillary Clinton, comme depuis le début de cette campagne. Mais ici, beaucoup attendent de la substance, des idées. Donald Trump veut rendre à nouveau à l'Amérique sa grandeur. Comment veut-il s'y prendre? Combien cela va-t-il coûter? Il faudra donner des réponses la nuit prochaine devant les délégués de la convention. On suivra ça évidemment sur VOA Afrique.
Les forces anti-djihadistes soutenues par les États-Unis ont donné aujourd'hui 48 heures aux combattants du groupe État islamique pour quitter leur fief de Minbej en Syrie afin de préserver les vies des civils, selon un communiqué. Par ailleurs, des militants syriens ont appelé à manifester dimanche à travers le monde après ces raids de la coalition internationale en Syrie soutenue par Washington. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et merci pour votre fidélité à la Voix de l'Amérique. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.